Capobec.
Ave good nil.
Moulia bim, pap koumè sa.
Nous donne appétit. Oustoul. Rad.
Bonjour. Aujourd'hui, début d'une longue saga qui va nous occuper pendant quelques émissions, l'histoire de la tomate. Puis nous allons rencontrer Didier Guillou qui, après avoir fait divers métiers, a retrouvé celui de son père et réalisé son rêve en devenant propriétaire et chef de Tara Cantine de Mer à Lesconil. Enfin, Marie nous donnera quelques idées pour gagner du temps en cuisine. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, c'est un fruit que nous consommons plutôt comme un légume, rouge et charnu, dont vous allez nous parler.
Exactement. Aujourd'hui, on va parler de la tomate. Et on en parlera même probablement plusieurs fois, parce que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être très approfondi comme sujet. Alors, commençons par le commencement. La tomate, ou de son petit nom savant, Solanum lycopersicum, est une espèce de plante herbacée de la famille des Solanacées. Et elle est originaire du nord-ouest de l'Amérique du Sud. Elle est très largement cultivée pour son fruit. C'est la plante, bien sûr, mais ça désigne aussi le fruit lui-même, qui est l'un des légumes les plus importants dans l'alimentation humaine et qui se consomme aussi bien frais que transformé. La tomate est devenue un élément totalement incontournable de la gastronomie de nombreux pays, et tout particulièrement en Grèce, dont chaque habitant consomme environ 72 kilos par an. Mais l'Italie, l'Espagne et la France en consomment également beaucoup. Alors déjà, d'où vient ce nom curieux? Eh bien, ça vient de l'espagnol, à la base, mais qu'il l'a emprunté au nahuatl, c'est-à-dire c'est une langue de la famille aztèque, disons. Tomatl, à l'origine, qui désignait le fruit de la tomatille, c'est-à-dire Physalis ixocarpa. En revanche, à l'époque, le mot nahuatl, xictomatl, lui, désignait la tomate que nous connaissons. La première attestation du mot tomate en français est très ancienne, puisque c'est apparu, à l'écrit, en 1598, dans la traduction d'un ouvrage espagnol. Ce mot tomate n'est rentré dans le dictionnaire que très récemment, parce que le fruit s'est très longtemps appelé pomme d'amour ou pomme d'or, alors qu'on pense que ça viendrait plutôt, le nom tomate ça aurait été plus ancien, mais non, pas du tout. Et ce nom tomate, on le retrouve dans de nombreuses langues qui l'ont adopté, avec de très faibles variations phonétiques ou orthographiques. Par exemple, dans les langues européennes, tomato en anglais, tomate en allemand, en espagnol ou en français, en portugais, tomate en danois, norvégien, suédois ou estonien, tomate en néerlandais. Il reste encore l'italien, qui utilise toujours le mot pomme d'or, pomodoro, et le polonais, pomidor. Alors cette tomate, qui est originaire des régions andines côtières du nord-ouest de l'Amérique du Sud, a été en effet retrouvée dans ces régions sous la forme de plantes spontanées, et il n'y a que là qu'on la trouve sous cette forme. Partout ailleurs, elle a été répandue de manière artificielle par des introductions de l'homme. Sa domestication est vraisemblablement intervenue dans la zone du Mexique actuel, où l'on a trouvé... Les conquérants espagnols l'ont trouvé lors de la conquête de la ville actuelle de Mexico, vers 1519, lorsque Hernán Cortés a conquis cette ville qui s'appelait alors Tenochtitlan. Elle s'est probablement produite après celle de la coquerelle, vous savez, cette petite bille jaune-orangée qui ressemble à une toute petite tomate dans une petite coque qui est quasiment de la dentelle, qu'on connaît également sous le nom de Physalis.
Ou coquerelle du Pérou, je crois.
Voilà, c'est ça, coquerelle du Pérou, justement parce que originaire de la même région que la tomate. Elle était alors, d'ailleurs, ce coquerelle du Pérou, ou coquerelle, était plus appréciée que la tomate à cette époque. Mais sa culture est finalement marginalisée, et aujourd'hui, c'est essentiellement la tomate qu'on retrouve. On ne sait pas tellement comment la tomate a migré du Pérou au Mexique. Peut-être par le truchement d'oiseaux migrateurs. Des oiseaux migrateurs qui auraient avalé, absorbé des tomates et dont les graines se seraient retrouvées dans les fientes. Dès l'époque, on a par des écrits espagnols très anciens que les Aztèques préparaient une sauce déjà avec ces tomates. Ils ajoutaient du piment, des graines de courge, divers ingrédients. Et c'est au début du XVIe siècle qu'en Europe, ça a été introduit par les Espagnols. D'abord en Espagne, puis en Italie, par Naples, et c'est remonté jusqu'en France. Et à l'origine, curieusement, la plante était considérée comme non comestible, et elle était même considérée comme quelque chose de toxique. Du coup, on ne l'utilisait pas pour la manger, mais on l'utilisait pour soigner. Seuls les médecins l'utilisaient. On en donne des descriptions, mais on la compare à des plantes comme la mandragore. On la appelle effectivement tout le temps du genre pomme d'or, pomme d'amour. Dans l'Europe du Nord, éventuellement, elle était également considérée comme une plante ornementale. Et finalement, c'est très ancien, c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on commence à consommer réellement les tomates.
Merci Philippe. Pour une fois, nous avons un cours complet d'histoire sur un fruit. Donc effectivement, nous allons un jour reprendre le roman de la tomate. Et pour conclure avec le temps, puisque nous avons parlé d'histoire, on remercie l'horloge de la maison. Au revoir.
Oustoul, Capobet.
Have a good meal.
Vous voulez bien pas comer ça ?
Bon appétit.
Bonjour Didier. Donc, vous nous recevez aujourd'hui, vous êtes Didier Guillou, vous avez un restaurant qui se trouve au bord de mer, à Lesconil, en Pays Bigoudin, qui s'appelle Tara Cantine de Mer. Donc, c'était l'aboutissement d'un beau rêve, d'une belle aventure. Vous aviez 46 ans, donc voilà, c'est pour dire que c'est un projet de la maturité. Qu'est-ce qui vous a poussé, porté pour aboutir à cette ouverture et à ce restaurant dont vous êtes le cuisinier, je tiens à le préciser.
Bonjour, j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 10 ans, comme force majeure, et puis mon père étant lui-même cuisinier, mais comme un cuisinier est toujours au fourneau, il ne pouvait pas être au fourneau et au moulin. D'accord. Donc c'est moi qui ai commencé à faire à manger à la maison pour mon frère. Oui. Et puis voilà, et donc de fil en aiguille, j'ai aimé cuisiner, j'ai aimé la pâtisserie. Et arrivé à 16 ans, comme l'âge un peu rebelle aussi, j'ai dit à mon père que je ne ferais pas ce métier de fou, parce qu'il fallait être un peu fou pour faire ce métier-là. Donc du coup,
Est-ce qu'il le faut encore, être fou pour faire ce métier-là ?
Il faut l'aimer et être un peu fou, ouais. Voilà.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, non. Et donc à l'âge de 16 ans, je me suis orienté vers l'électronique, parce que je suis quelqu'un de manuel, et puis j'aime bien tout ce qui est création, dépannage, tout ça. Donc j'ai travaillé comme ça pendant 25 ans dans la partie technique électronique. Et une petite anecdote, c'est que je me rappelle que quand j'ai passé mon bac en 82 à Quimper, j'avais un professeur de schéma électronique qui nous disait « L'électronique, ça va être marche ou crève. » Donc il y en a qui vont prendre le train et qui ne le quitteront plus. Et il y en a d'autres qui vont prendre le train et qui seront obligés de descendre parce que ça va trop vite. Donc déjà, en 82, il avait une vision de ce que devenir l'électronique et que ça serait du jetable. Il n'y aurait plus assez pour faire du dépannage parce que le dépannage, c'est un coût.
Bien sûr.
Et donc, quand on achète quelque chose à 20 euros, s'il faut passer une heure dessus, c'est du jetable. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait mon chemin. J'étais dans une multinationale et j'ai vu que le climat se dégradait à tout niveau. Donc, je me disais, de toute façon, moi, j'adore cuisiner. Et puis, un jour, j'aimerais bien tenir un restaurant.
Votre papa avait aussi un restaurant ?
Non, il était cuisinier en collectivité. Puis, il travaillait les week-ends en extra. Parce que, pour arrondir les fins de mois. Il en parlait à la maison, comme quoi il voulait tenir un restaurant. Mais il n'a pas franchi le pas.
C'est donc vous qui avez fait aboutir le rêve paternel.
Voilà. Et donc du coup, j'ai pris un congé parental pour réfléchir à ma seconde période de vie professionnelle. Et j'avais découvert un centre de formation qui est dans le Vercors, qui s'appelle la FRAT, et qui est l'association pour la formation des ruraux au métier du tourisme. Et j'étais parti vers du gîte, faire un gîte en Bretagne avec une table d'hôte. Je me suis renseigné sur cette formation, j'ai comparé les formations qu'il y avait à proximité, style Créta et AFPA, et puis en fin de compte, j'ai fait mon choix avec des sacrifices, parce que je laissais ma famille derrière moi pendant 8 mois, je partais 8 mois, je retournais sur les bancs de l'école pour passer un bac pro de cuisinier du terroir, et donc c'était difficile mais très enrichissant à la fois. Et puis j'ai eu mon bac pro et j'ai passé une année extraordinaire au niveau formation. C'était un centre dans lequel on pouvait aller cuisiner le samedi matin. Le formateur était passionné. C'est lui qui avait élevé la formation au niveau de bac pro. C'était un ancien de l'éducation nationale aussi, mais qui avait bourlingué à travers le monde, qui avait fait d'autres centres de formation avant. On voyait, il amoureux de la cuisine et de la formation, quoi, du contact des gens. Quoi.
La transmission.
Ouais. C'est un savoir-faire, c'est pas donné à tout le monde.
Tout à fait.
Surtout d'enseigner, il faut. Et c'est une formation intense et longue. On a fait des modules, style le cochon. On a fait une semaine module cochon. C'était un petit truc du choix de la formation. Je voyais qu'on faisait des modules, et notamment le module du cochon, je me dis, ça peut toujours servir en Bretagne. On avait un module fruits de mer, poisson.
Ah bah là aussi.
Ça. Donc ça me convenait. On avait un module confiture, on avait un module boulangerie, on avait un module pâtisserie.
Oui, donc c'était vraiment très transversal.
Oui, on avait un module aussi légumes oubliés, cuisine alternative. Donc on était très sensibilisés sur le mode de consommation et comment allait évoluer la cuisine aussi. Et la sensibilité des gens, d'une partie des gens, quoi, pour manger mieux, plus sainement. Qui dit terroir ne dit pas systématiquement gras et lourd. Et donc j'ai passé une super année à apprendre et à échanger avec les autres stagiaires. La plus âgée avait déjà 53 ans quand je suis allé. Moi j'en avais...
Mais c'était que des adultes.
41, si, il y avait les moins de 26 ans. Bon, c'est adulte. Mais il y avait deux catégories. Il y avait les moins de 26 ans et il y avait les plus de 26 ans. Parce qu'il y avait des contrats aidés avec la région, hein, comme toutes les formations. Et du coup, très riche, avec des gens qui venaient de l'informatique, des gens qui venaient du milieu social, de tout horizon.
votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on a... C'est pas facile de s'auto-analyser. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'avoir un restaurant? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça va au-delà de faire la cuisine. Alors, ça signifie quoi pour vous? Et peut-être, vous avez peut-être échangé avec vos collègues à l'époque, pourquoi eux-mêmes repartaient sur ce projet-là?
Oui, donc moi j'ai eu la chance de voyager un petit peu à travers le monde. Donc j'ai vu différentes cultures, différents modes de consommation, d'alimentation. Et je voyais que la restauration, où elle allait dans les années 90-2000, c'était pas la bonne direction. Donc je me disais qu'il y a de la place pour des restaurants qui proposent autre chose que, je dirais, de l'assemblage, où on peut tout faire soi-même avec des produits frais. Et donc moi, mon choix s'est orienté vers le produit frais, tout de A à Z. La carte n'est pas énorme, mais tout ce que je propose, c'est du frais. Donc je me disais, moi, ce que j'ai envie, c'est de créer. Donc c'est une passion.
C'est d'inventer des nouvelles recettes.
Inventer toujours, ne pas suivre. J'ai toujours eu du mal à suivre un livre de recettes. Je m'inspire des livres de recettes, mais je ne suis pas les recettes. Après, c'est une histoire aussi d'analyse, de bien visualiser ce qui va, ce qui ne va pas. Et la cuisine, c'est cette partie-là, créativité, la confection. Mais ce qu'il y a à côté, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est la côté administratif qui est très lourde. Ouais. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est vrai, il ne faut pas se le cacher, ça prend du temps. Quoi. Donc surtout qu'on a un métier en saison, c'est 14-16 heures par jour. Quoi. Donc c'est vrai qu'en saison, on n'a pas le temps de faire
Et c'est l'administratif qui est lié au contrôle sanitaire, c'est
lié à tout.
C'est la comptabilité, tout.
Tout.
Vous avez des salariés dans le restaurant?
Je n'ai pas fonctionné avec un salarié au départ. Je suis parti avec des contrats saisonniers.
Oui.
Et après, CDD pour la période d'hiver.
Mais ça n'empêche que c'est de l'administratif.
C'est encore plus administratif. Parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle embauche, il y a de nouveaux papiers, il y a tout à faire derrière. Non, ce qui m'intéressait dans cette partie-là, c'est que je pense qu'un cuisinier n'est pas fait que pour rester au fourneau. Il est là aussi pour communiquer avec ses clients.
D'accord.
Et les clients, ce que je fais à la fin de chaque service, je passe dire bonjour à mes clients. Et les clients, des fois, sont surpris.
Oui, parce que c'est la tradition, on voit ça dans les films, les cuisiniers, bon, puis dans les grandes tables, les cuisiniers qui viennent discuter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un peu perdu quand même.
Dans un petit restaurant, ça se voit très peu.
Ça se voit très peu, et voilà. Vous avez raison, c'est dommage. Enfin, il y a aussi un plaisir, quand on a bien mangé, de pouvoir le dire à celui qui l'a fait.
Voilà, et puis moi, ça permet de m'évader de ma cuisine, parce que c'est vrai, comme je disais au début, c'est un métier de fou, hein. Il faut aimer ça.
Et finalement, ça vous plaît quand même.
Ah bah oui,
ça
me plaît. Et puis bon, je pense dans le métier de cuisinier, il y a un côté altruiste où on est là pour faire plaisir aux gens. Si on n'a plus cette envie-là de faire plaisir aux gens et de savoir que les gens sont satisfaits, là, je me poserais des questions, je me dirais, change de métier à nouveau.
Mais pour l'instant, la flamme est toujours là.
Ouais, voilà. Et puis bon, je pense qu'elle va rester parce que c'est...
Et qu'est-ce qu'ils vous disent aux clients? Est-ce que vous avez comme ça, là, est-ce que vous avez des souvenirs de remarques de clients qui vous ont fait particulièrement plaisir ou qui vous ont particulièrement étonné?
La première qui me vient à l'idée, c'est un monsieur qui passait dehors. Il passait juste à côté de la fenêtre de ma cuisine. Et puis, il reste collé à la fenêtre. Il était en train de me parler, donc j'ouvre ma fenêtre. Il me dit, ça sent tellement bon qu'on a envie de venir chez vous. Il était juste à côté de la hotte de ventilation.
Alors, je vais quand même me permettre de témoigner pour nos auditeurs, parce que nous sommes chez vous. C'est pour ça, peut-être qu'on entend les bruits de cuisine. Et je dois dire qu'il y a un délicieux fumet de terrine de poisson qui nous arrive dans les narines. Je comprends tout à fait le poisson qui s'était raté. Il est certain que c'est tentant, surtout à l'heure du dîner.
Voilà. Donc, il y a eu ça, il y a eu des clients. Je crois que la satisfaction aussi, c'est d'avoir des clients qui reviennent tous les jours. On se dit, mais...
Donc là, vous avez des habitués, des gens qui viennent manger le midi parce qu'ils travaillent ici.
Ils travaillent, oui. Et dans la partie de la clientèle touristique, on a des fois des clients, ils sont là tous les midis ou tous les soirs.
Ah oui, effectivement.
Là, c'est surprenant, quoi, parce que moi, je vais dans un coin, j'ai voyagé beaucoup, je vais voir d'autres restaurants.
Tout à fait.
Et là...
Et vous leur avez posé la question?
Oui, parce qu'ils sont tombés bon, il y a le cadre, c'est un tout. Hein.
Voilà, c'est un tout. Ça ne se voit pas à la radio, alors je vais essayer de décrire un tout petit peu, puis je vais peut-être vous laisser aussi le faire. Mais enfin, on est sur le port. Alors, en plus, vous vous reconnaître là, il est presque 6h30, le soleil est en train de baisser, il fait un temps magnifique, il y a la mer partout, les bateaux, la côte. Le bâtiment est blanc, rouge et gris, c'est chaleureux, c'est lumineux, c'est joliment décoré. Je comprends qu'on en fasse sa cantine, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots.
C'est pour ça que je l'ai appelée cantine aussi, c'est pour que, moi, ce que je voulais, c'est que les gens se sentent bien et que...
Presque comme, chez eux.
Voilà, parce que mon idée au départ, c'était la table d'hôte. Donc il y a une table d'hôte, discussion, échange avec les clients... Manger, je ne peux pas faire encore avec des clients.
Non, c'est compliqué.
C'est pas possible. C'est trop compliqué. Mais c'est cet échange-là qui, pour moi, était très important. Et de voyager avec des clients, parce que j'ai des gens qui viennent de toute nationalité qui viennent. Je suis allé dans le Vercors et j'ai rencontré des clients fin septembre l'année dernière qui sont revenus trois fois manger. Ils ont dit le dernier soir avant de repartir, on viendra chez vous. Et en discutant, on a sympathisé, tout ça. Un monsieur qui avait pas mal brelingué aussi. Donc j'ai voyagé avec lui dans ses différents voyages, il racontait ses histoires. Et il m'a dit, ah, si vous passez dans le Vercors, vous venez me voir. Et bien, on est allé en vacances au mois de février. Ben, je suis retourné voir mes amis du Vercors. Et du coup, je suis passé voir. Il m'a super accueilli chez moi. Et là, j'ai des gens de Savoie qui m'ont écrit, qui m'apportent du chocolat, des cadeaux avec les clients. Je trouve ça... extraordinaire, je ne m'attendais pas à ça, quoi. C'est marrant. L'année dernière, il y avait le tour du Finistère à la voile qui s'arrêtait dans le port. Il y avait un concert le soir et la scène finissait très tard, vers 11h. Et donc l'animateur de mairie m'a demandé si tu peux faire manger les gens après le concert. Je lui ai dit, ouais, c'est à quelle heure? Pas avant 11h, 11h15. Ils arrivaient à minuit moins 15. Je les ai installés, je les ai fait manger. Ils ont pris une poulet de langoustine. Donc, comme on est au pays de la langoustine, j'ai envie de prendre la poulet de langoustine. Ils étaient ravis. Et en fin de discussion, j'ai pris un verre avec eux. On a discuté. Et puis, vous ne connaissez pas l'ail du Lot-et-Garonne. C'est la meilleure ail. On vous en enverra. Puis l'année s'est passée. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai oublié, quoi.
Oui.
Et un jour, je reçois un colissimo par la poste. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? 1 kilo d'ail. Une perte pleine d'ail.
Il fallait le temps qu'il pousse, hein.
Ah oui, voilà. Et comme il m'a dit, c'était l'ail nouveau. Donc il fallait. Vous ne pouvez pas m'envoyer.
Voilà, il fallait attendre la saison.
La saison. Il est bon. Il est bon. Moi, je prenais une nature comme ça. J'adore l'ail. Ouais. Je suis breton, mais j'ai une ouverture, je trouve, d'esprit culturel et culinaire assez large. Kenavo.
Kenavo.
Oustoul.
Bonjour Marie.
Bon
appétit. Nous allons parler des gains de temps. Et ça, c'est pas négligeable dans la vie du cuisinier, de la cuisinière ordinaire que nous sommes.
Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous parler de ces gains de temps qui nous permettent de manger de façon assez équilibrée et de façon régulière. Je m'explique. Lorsque j'ai un petit peu plus de temps, par exemple le samedi matin, moi c'est mon temps de cuisine, eh bien je vais faire en sorte d'acheter, si vous voulez, un peu plus de viande que je n'ai besoin pour mes 3-4 jours d'avance, ou des fruits, des légumes, et je vais préparer ce que j'appelle mes préparations à blanc. Ça veut dire quoi? Si j'achète par exemple du poulet pour mon week-end, eh bien, je vais le cuire, hein, pour mon week-end, c'est vrai, mais à côté, je vais mettre de côté une certaine quantité pour 2-3 repas et que je vais congeler. Donc, je congèle. Alors, comment je les congèle? Surtout, je les congèle par portion de 1 ou 2 personnes. Comme ça, je vais faire, par exemple, 3 ou 4 barquettes de 2 personnes. Et en fonction du nombre d'invités ou de personnes que j'aurai à table, je sortirai les barquettes correspondantes. Donc, l'idée est d'avoir du blanc de poulet pré-cuit ou du veau pré-cuit, tout ça. Et ensuite, quand je les sors dans la semaine... je vais pouvoir là les préparer en fonction de mon envie. Tout sera prêt, les petits cubes, tout ça c'est fait, quel gain de temps. Et après, en fonction de mes envies, soit je vais les accompagner d'une sauce tomate, ou avec des épices, ou avec des légumes. Vous voyez, donc ce sera vraiment en fonction de ce que j'ai envie de faire.
Rad alayla, rav shireinu, haboke al shamayim, shuvi shuvi, orateinu.